Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. TDAH, la boîte à outils stratégie et technique pour gérer le TDAHE est un guide pratique d'Ariane Hébert, psychologue québécoise. Consacré à l'accompagnement des enfants présentant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Dans cette édition révisée, l'ouvrage associe des repères sur le dépistage, l'évaluation et la médication à des stratégies applicables dans la famille et à l'école. Son propos ne consiste pas à promettre une disparition rapide des difficultés, mais à aider les adultes à ajuster l'environnement, les consignes et leurs interventions. Hébert aborde notamment l'attention, l'organisation, l'agitation, l'impulsivité, la colère, les émotions et l'anxiété. Le livre s'adresse d'abord aux parents qui s'interrogent sur les signes du TDAH ou sur les démarches suivant un diagnostic. Il peut également servir de ressource aux enseignants et aux intervenants. Sa forme de boîte à outils privilégie des explications accessibles, des situations concrètes, des fiches synthétiques et des espaces permettant de retenir les mesures les plus pertinentes pour un enfant donné. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, comprendre le TDAH par les difficultés d'inhibition. Le livre présente le TDAH comme un trouble neurodéveloppemental qui ne se réduit ni à un manque de volonté ni à une simple agitation. L'un de ses repères explicatifs centraux est la difficulté à inhiber certains stimuli, réactions ou pensées. Cette perspective éclaire des manifestations variées qui peuvent autrement sembler sans lien entre elles. Un enfant peut bouger fréquemment, interrompre, oublier une consigne, se laisser capter par un détail, réagir vivement à la frustration ou peiner à changer de plan. Dans chaque cas, l'enjeu n'est pas seulement de savoir ce qui devrait être fait, mais de pouvoir arrêter une réponse immédiate afin de sélectionner celle qui convient au contexte. L'image du sprinter aide à comprendre le caractère inégal des performances. L'enfant peut parfois fournir un effort remarquable, particulièrement lorsqu'une activité l'intéresse ou qu'un cadre très soutenant est présent, sans pouvoir maintenir ce niveau longtemps. Cette variabilité ne doit donc pas être interprétée comme une preuve qu'il pourrait toujours réussir s'il faisait davantage d'efforts. Elle invite plutôt l'adulte à tenir compte de la fatigue, de la durée des tâches et de la charge de stimulation. Le cadre proposé déplace ainsi l'intervention de la réprimande vers l'aménagement de conditions qui rendent l'autorégulation plus accessible. Deuxièmement, s'orienter entre repérage, évaluation et décision sur la médication, une fonction importante de l'ouvrage est de répondre aux questions qui précèdent ou suivent le diagnostic. Il aide les parents à distinguer l'observation de difficultés persistantes d'une conclusion hâtive sur le TDAH. Les problèmes d'attention, d'organisation ou de comportement doivent être envisagés dans leur retentissement quotidien et dans plusieurs milieux, plutôt qu'à partir d'un épisode isolé. Le livre oriente ensuite vers les démarches d'évaluation appropriées en rappelant implicitement qu'un diagnostic ne relève pas d'une auto-évaluation familiale. Cette prudence est particulièrement utile dans un domaine où les inquiétudes parentales, les attentes scolaires et les discours sociaux peuvent se confondre. La médication est traitée comme une décision à examiner de manière informée avec les professionnels concernés, et non comme une solution automatique ou comme un sujet à éviter. L'intérêt de cette approche est de replacer le traitement dans un ensemble plus vaste de soutien. Un médicament, lorsqu'il est envisagé et suivi médicalement, ne remplace pas les adaptations des tâches, les routines, l'apprentissage de stratégies ou la coopération entre adultes. À l'inverse, les seules stratégies comportementales ne rendent pas forcément inutile une discussion clinique sur les traitements. Le guide favorise donc une position nuancée, fondée sur les besoins réels de l'enfant et sur un suivi plutôt que sur une opposition de principe. Troisièmement, transformer les difficultés quotidiennes en système d'organisation concret. La partie pratique du livre s'attache aux problèmes qui pèsent souvent le plus sur la vie familiale et scolaire, perdre ses affaires, oublier des étapes, commencer sans terminer, remettre au lendemain ou se désorganiser devant plusieurs demandes. Sa logique est de rendre visibles et externes des opérations que l'enfant peine à gérer mentalement de façon constante. Des routines, des repères visuels, des listes de vérification et une décomposition des tâches peuvent ainsi diminuer la part d'improvisation exigée au moment d'agir. Cette orientation est plus précise qu'un conseil général invitant l'enfant à mieux s'organiser. Elle reconnaît qu'une instruction trop longue ou trop globale crée une charge supplémentaire pour celui qui doit déjà filtrer les distractions et retenir la suite des actions. Fractionner une tâche en objectifs intermédiaires permet d'obtenir des retours plus fréquents, de vérifier la compréhension et de rendre le progrès perceptible. Les outils n'ont cependant pas vocation à uniformiser tous les enfants. Leur efficacité dépend de l'âge, des capacités, des contextes et de l'adhésion des adultes qui les appliquent. Hébert insiste sur la régularité, une méthode doit être maintenue assez longtemps pour être comprise, intégrée et évaluée. Cette dimension protège contre la multiplication de solutions brèves, vite abandonnées, qui peut accroître le sentiment d'échec. L'organisation devient alors un soutien environnemental durable et non une injonction morale adressée à l'enfant. Quatrièmement, adapter la classe pour soutenir l'attention sans isoler l'élève, l'ouvrage accorde une place concrète au contexte scolaire, où les exigences d'attention soutenue, de gestion du matériel et de contrôle comportemental sont particulièrement fortes. Parmi les pistes associées au livre figure une place choisie dans la classe. Des consignes personnalisées et courtes, des codes convenus avec l'enseignant, des informations présentées par plusieurs canaux, ainsi que des listes et codes de couleurs. Ces mesures ont une cohérence, elles réduisent les ambiguïtés, limitent les sollicitations inutiles et aident l'élève à revenir à la tâche avant que la difficulté ne se transforme en conflit. La segmentation du travail en étapes intermédiaires est également essentielle, car elle rend une tâche longue plus praticable et permet des ajustements rapides. Certaines adaptations concernent l'agitation et la régulation sensorimotrice, telles que des possibilités de mouvements utiles, des positions de travail variées ou un espace calme dans certaines circonstances. Elle ne signifie pas que toute activité doit être libre, mais qu'un besoin de bouger peut être canalisé au lieu d'être uniquement sanctionné. Le livre ne présente pas ces outils comme universels. Une adaptation doit être réalisable dans la classe, testée avec constance et modifiée selon ses effets. Cette réserve évite de confondre une liste de techniques avec une recette. Elle valorise plutôt un travail conjoint entre l'enfant, la famille et l'école, centré sur des obstacles observables. En dernier lieu, réguler impulsivité, émotion et anxiété dans une perspective durable. Au-delà de la concentration, le livre traite les conséquences affectives et relationnelles du TDAH. L'impulsivité peut prendre la forme d'interruptions, de gestes précipités, de conflits ou de réponses données avant que l'enfant ait évalué la situation. Les émotions peuvent aussi devenir plus difficiles à moduler lorsque la frustration, l'attente, la surcharge ou les échecs accumulés épuisent les capacités de contrôle. Hébert propose donc des outils visant à réduire l'agitation, mieux vivre les émotions, diminuer la colère et maîtriser l'anxiété. L'intérêt de ce regroupement est de ne pas traiter les comportements comme des défauts séparés. Un enfant désorganisé, souvent repris et en difficulté dans ses apprentissages, peut développer une tension qui aggrave ensuite son impulsivité ou son évitement. L'intervention gagne alors à anticiper les situations sensibles, à clarifier les attentes et à offrir des moyens de retour au calme plutôt qu'à intervenir seulement après une explosion. Le livre conserve une perspective réaliste sur la durée. Le TDAH n'est pas décrit comme une phase qui disparaîtrait grâce à une seule méthode, et les stratégies demandent répétition et réajustement. Cette continuité est importante pour éviter que l'enfant soit défini par ses épisodes les plus difficiles. Elle permet aux adultes de rechercher des progrès fonctionnels, comme attendre davantage, repérer une montée de colère ou demander de l'aide, plutôt qu'une maîtrise immédiate et totale. En conclusion, TDAH, la boîte à outils conviendra surtout aux parents d'enfants chez qui un TDAH est suspecté ou déjà identifié, ainsi qu'aux enseignants, éducateurs et proches qui cherchent des repères pour intervenir de manière cohérente. Il sera particulièrement utile à ceux qui ont besoin de relier des difficultés très concrètes, comme les oublis, les devoirs interminables, l'agitation ou les débordements émotionnels, à une compréhension moins culpabilisante du trouble. Le lecteur y trouvera moins une théorie exhaustive qu'un guide d'action structuré, repérer les enjeux, discuter avec les professionnels, choisir quelques outils, les appliquer avec régularité et en observer les effets. Cette progression rend l'ouvrage adapté à une consultation ponctuelle aussi bien qu'à une lecture suivie. Sa spécificité. Parmi les guides sur le TDAH, tient à l'articulation entre informations sur l'évaluation et la médication, stratégie domestique, adaptation scolaire et régulation émotionnelle. L'expérience clinique de l'autrice et son recours à des exemples du quotidien contribuent à maintenir un langage accessible sans réduire le sujet à des conseils simplistes. Le livre se distingue aussi par son format orienté vers l'utilisation, avec des fiches et pense-bêtes qui favorisent l'appropriation. Il ne remplace ni une évaluation ni un suivi professionnel et ses propositions doivent être adaptées à chaque enfant. Mais il offre un cadre pragmatique pour construire des réponses plus prévisibles, plus collaboratives et plus attentives aux forces comme aux limites de l'enfant. Si vous souhaitez soutenir Ariane Hébert, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.